Couture.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez vous en.
Dans le Mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben le RTC va bouger, là, parce qu'il y a beaucoup de violence envers les chauffeurs du RTC. Non, c'est. Quand vous parlez avec des gens qui travaillent au RTC, là.
Les usagers sont agressifs?
Hein?
Ah, ouais.
Là, on va former les chauffeurs contre les gestes violents des usagers.
OK.
C'est un contrat qui a été donné par la plateforme SEAO. Le Journal de Québec, il rapporte ça ce matin.
Pas un autre contrat octroyé que, ouais, qui va faire jaser, par exemple, un gars comme Renaud Labrec,
ouais,
dans Wallet en direct.
Ouais, ben là, c'est parce que les chauffeurs, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont en arrêt de travail, hein. Se font cracher dessus,
ben
se
voyons,
font insulter. Non, non, ça va bien à Québec. Beaucoup de monde là, comme ça, là, qui rentre dans les autobus puis qui pensent que c'est à eux autres, puis qui prennent le contrôle. Puis là, toi, là, mettons, ça brasse dans une 800. Puis là, toi, tu.
50-60 personnes, t'as pas le temps de gérer ça.
Faut que tu débarques en arrière, puis la foire est pognée, la police arrive. Hey, c'est malade. C'est fou raide, là. Moi, il y a des chauffeurs.
Ça va très bien.
Des chauffeurs qui sont en arrêt de travail, Nick. Puis.
Je peux comprendre.
Ils reprendront pas le. Ils se sont fait agresser. Non, non, c'est ça, ça va. Donc là, le RTC allume, puis ils vont former les chauffeurs contre les gestes violents des usagers. C'est pas pire? On est là?
On est là.
Il est là?
Yes, sir.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Nick, bonjour.
Salut.
Québec. Écoute, je vais bien, je vais bien. J'attends que le printemps arrive finalement. Moi, j'ai eu de la grêle hier.
Voyons.
Non, non. Je te jure, pendant une heure, il grêlait. Maintenant, c'est parti, bien évidemment, mais j'attends le printemps. J'espère que ça va être bien pour le long week-end des Patriotes. Là.
Ben, écoute, d'ici là, je pense qu'un petit voyage en France, ça ferait bien. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, écoute, tu mets les mots dans la bouche. La première ministre, Mme Christine Fréchette, vendredi soir, sera dans un avion direction la France pour son premier voyage officiel en tant que première ministre en sol français. On se souvient que le premier voyage de Mme Fréchette était à Washington. Là,
oui,
maintenant, elle va aller voir nos cousins français. C'est intéressant parce qu'il faut savoir que la première ministre du Québec et tous les premiers ministres du Québec ont un statut spécial en France. Normalement, un premier ministre d'une province rencontre rarement le chef de l'État en France, le président de la République. Souvent, c'est des rencontres avec au maximum le premier ministre. Mais au Québec, a une relation spéciale avec la France. Donc oui, normalement, dans l'agenda, il y aurait une rencontre à l'Élysée, possiblement avec le président Macron, ainsi qu'avec le premier ministre français. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça aide, quand tu vas avoir une campagne électorale, d'avoir comme ça quelques photos à l'Élysée avec la garde républicaine. Ça fait déjà comme ça des bonnes photos de campagne.
Ouais.
C'est un tout petit peu ce que M. Carney, souvenons-nous, avait fait lorsqu'il avait été devenu premier ministre. Lui s'était envolé vers l'Angleterre et vers la France. Et surtout, c'est une opportunité pour Mme Fréchette de parler d'économie, de parler surtout de défense, de rencontrer beaucoup des entreprises françaises qui sont actives dans la défense. Surtout qu'on se souvient que la semaine dernière, Mme Fréchette avec M. Carney ont participé à l'annonce, la grosse annonce concernant Airbus à Mirabel qui vendait des avions à AirAsia.
Ouais, et Mme Fréchette, c'est la CAQ, donc c'est pas la souveraineté à tout prix. Est-ce que le nini tient encore en France, non-ingérence, non-indifférence?
Oui, c'est vraiment intéressant que tu poses cette question, cette politique de non-ingérence, non-indifférence. On se souvient aussi que la dernière fois que François Legault était allé en France, de quoi il avait beaucoup parlé? Il avait parlé de laïcité. Il avait dit que le Québec doit prendre exemple concernant la laïcité en France. Ça va être intéressant de voir exactement ça va être quoi le message de Mme Fréchette, outre le message économique, surtout parce que, comme tu viens de le dire, il y a toujours cette problématique en France, la relation spéciale. On se souvient aussi, puis ça c'est juste pour faire une petite blague, que quand Jean Charest était une fois allé en France, je pense que c'était le président de l'Assemblée nationale, avait essayé de faire une blague en québécois puis lui avait dit, Monsieur Charest, avez-vous la plotte à terre?
Ah oui, donc non, on verra. Ça fait jaser. Mais là, Mme Fréchette, ça, tu sais, là, elle est revenue la semaine dernière, c'était comme, tout était beau, hein? On contrôlait l'agenda, là, on est allé en chambre, les problèmes du Québec remontent à la CAQ et à son parti. Là, elle sauve en France une semaine, elle va revenir. On essaie là, de contrôler mieux l'agenda puis les photo-op, hein?
Oui, mais ça va être difficile parce que là, actuellement, on est en train de parler beaucoup de dossiers informatiques. On a vu, on attend de voir ce qui se passe avec Santé Québec. On a appris ce matin de Radio-Canada que c'est pas seulement le domaine de la santé, c'est aussi le domaine de la justice, qu'il y a des problèmes informatiques, qu'on a possiblement peut-être fractionné des contrats, qu'il y a eu des dépassements de coûts, qu'il y a des délais qui sont pas respectés. Puis on a eu aussi l'ancien ministre de la cybersécurité, Gilles Bélanger, qui s'est un peu vidé le cœur dans le journal de Montréal en disant que lui, pour lui, il pensait qu'on allait vers un mur concernant le virage informatique du gouvernement. Moi, ce qui m'énerve dans tout ça, tu te souviens quand il y avait le début de la commission Galant,
oui.
Je t'avais dit, pourquoi est-ce que la commission Galant, on ne parle que de la SAAQ et pourquoi on n'a pas fait une commission où on regardait de façon plus large, pas seulement la SAAQ, mais aussi les virages numériques à la santé, aussi le virage numérique qu'on est en train d'en parler actuellement à la justice. Moi, je pense que c'est une occasion ratée qu'on a eu cette fameuse commission de passer en revue tous les projets du gouvernement concernant le virage numérique, parce que, d'après Gilles Bélanger, on est en train de parler que ça coûterait dans les prochaines années 20 milliards de dollars tous ces virages ouais. numériques que le gouvernement est en train de faire. Et il paraît que même on n'a que 9 milliards de dollars qui est budgété.
Écoute ce que Legault disait avant d'être élu en 2018. Écoute ça.
Il y a une autre chose aussi qu'un gouvernement de la CAQ va faire dès le début du mandat, c'est de revoir tout le gaspillage. Je pense entre autres à l'informatique. Actuellement, c'est un bar ouvert. C'est probablement le prochain scandale après la construction. Actuellement, on dépense beaucoup trop en informatique. Cet argent pourrait être investi, entre autres, pour remettre dans le portefeuille des familles.
Incroyable! Lui, il l'avait calé d'avance, puis il arrive au pouvoir, puis qu'est-ce qu'il fait?
La même chose.
Il fait rien. Il fait pas sa fameuse commission.
Ben, un puis deux, là, on le voit, hey, 20 milliards de dépenses d'ici 10 ans, il y a 9 milliards de budgétés. Faites vos paris, là, vos taxes, vos impôts vont monter, là.
Oui, non, c'est vraiment... Écoute, c'était prémonitoire comme ça, cette phrase de François Legault qui lui-même, après, s'est fait attraper, lui-même qui a été forcé de faire comme ça cette commission Galant pour voir qu'est-ce qui se passait à la SAQ. Puis oui, cette occasion ratée, surtout pour la CAQ, au début du mandat, de regarder un tout petit peu, puis d'avoir fait... de regarder tout ce qui se passe. Puis c'est vrai qu'on se pose des questions parce que c'est des licences qui coûtent très cher. Puis ensuite, après, on est un peu ligoté
oui.
avec ces contrats, avec ces licences d'utilisation. On a appris, par exemple, la semaine dernière que juste pour Santé Québec, ça coûte 100 millions de dollars, ces fameuses licences.
Par année? Donc, par année pour deux régions, là?
Oui, non, c'est pour ça que je te dis. Puis là, on est en train d'apprendre la justice. Puis mon petit doigt me dit que, écoute, si ça arrive à la justice, puis si ça arrive à la santé... Bien, il y en a d'autres, et on se souvient ce qui s'est passé au fédéral avec ouais. Phoenix. Puis actuellement, au fédéral, on n'a toujours pas fait la lumière sur le fameux programme CURAM, qui est le programme pour faire les chèques pour les retraites.
Oui, puis beaucoup de lobbyistes, là, qu'eux autres, ils sont très actifs. Puis là, lui, ce qu'il dit, Gilles Bélanger, il dit là, l'IA s'en vient. Là. Claude, là, d'Anthropique, là, il code, lui, puis il coûte pas cher. Là, vous êtes en train de vous barrer les mains avec des licences pour les 10 prochaines années. Il va arriver quelque chose. Lui, il dit, ça n'a aucun sens. Il n'y a personne qui dirige, parce que lui, il dirigeait le ministre de la cybersécurité. Mais tu sais, il n'y a personne qui a encore de rien. Il n'y a pas de ligne directrice au gouvernement total. Chaque ministère fait ce qu'il veut avec l'argent des autres. À un moment donné, il va manquer d'argent, puis les coûts vont exploser.
Il va manquer d'argent. La fameuse souveraineté numérique, comment nos données, en tout cas personnelles, soient conservées. Puis oui, je pense que Gilles Bélanger soulève quelque chose de très important. On n'arrête pas d'entendre les ministres, à la fois au fédéral puis à la fois au provincial, à chaque fois dire à quel point Montréal, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça, puis on est bien positionné, mais qu'on est en train, par exemple, de faire des licences ou de faire des contrats,
ouais.
Ben, on dirait que ces éléments d'intelligence artificielle, des fois, ne sont même pas intégrés.
Voilà. Ça, écoute, c'est une marmite, mais tu sais, pour nous, là, on commente, là. C'est du bonbon, là. Nous autres, là, amenez-en des histoires de même. On va en sortir jusqu'à demain matin. Et il y a des élections qui s'en viennent aussi. Steven Guilbeault, lui, est-ce qu'il va quitter? Qu'est-ce qui se passe avec Steven?
Il va devoir se brancher, Steven Guilbeault, parce que déjà, depuis un moment, on se pose la question comment M. Guilbeault peut continuer à rester au caucus du Parti libéral du Canada. On se souvient qu'il avait démissionné en tant que ministre, mais il n'était pas allé aussi loin que de quitter le caucus. Là, on l'a entendu durant des entrevues cette fin de semaine parler puis dire que Mark Carney, en termes de ce qu'il est en train de faire sur l'environnement, ben ce serait pire en plus que Stephen Harper. Donc, c'est quand même un peu paradoxal.
C'est gros, là.
Oui, c'est gros quand même de dire que Mark Carney va plus loin puis que même Stephen Harper n'aurait pas osé aller aussi loin que M. Carney est en train d'aller en termes de politique environnementale, d'enlever certaines politiques environnementales concernant l'approbation des grands projets. Donc, au bout d'un moment, je me pose la question, est-ce que lui, il se magasine pour essayer de se faire mettre dehors du Parti libéral? Est-ce qu'il teste comme ça les eaux? Il faut se souvenir que, faut pas l'oublier, M. Carney n'a pas une grande majorité. Oui, il a une majorité, mais il ne peut pas se permettre non plus de perdre comme ça des députés. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quand même gros comme ça d'avoir Stephen Guilbeault qui cite en tout cas Stephen Harper puis qui dit que même Stephen Harper ne serait pas allé aussi loin.
Mais Mark Carney avait tassé Stephen Guilbeault, là. Il l'a tassé carrément du portrait, là. Il était... C'était quoi? C'était l'espèce de caporal québécois.
Lieutenant, oui.
Lieutenant. Là, caporal, je ne sais pas trop, là, ils ont des termes. mais tu sais, il l'a tassé, puis il a nommé Joël Lightbound notamment.
Oui.
Donc là, Stephen Guilbeault s'est fait tasser. Est-ce que Stephen Guilbeault se magasine un poste d'ambassadeur?
Ben, ou je ne sais pas, ou est-ce qu'il se magasine un poste dans un organisme environnemental? Mais moi, je me aussi l'autre question qu'on doit se poser, Pierre, c'est que. Ça fait 10 ans que t'entends des libéraux, puis c'est pas seulement Stephen Guilbeault qui disait que la meilleure chose après le pain tranché, c'était la taxe sur le carbone, puis ouais. Que si on faisait pas la taxe sur le carbone, la terre, elle allait brûler, etc. Même moi, à mon époque, quand j'étais chez les conservateurs, on entendait ça. Puis là, t'es en train de te dire, mais est-ce que c'est le seul Stephen Guilbeault ou est-ce qu'il y en a d'autres de ce fameux caucus environnemental? Mais d'un autre côté, faut aussi voir, on parle de souveraineté au Québec souvent, mais la souveraineté en Alberta, elle devient de plus en plus réelle en termes d'avoir un référendum. Donc, est-ce que M. Carney va réussir à faire atterrir un projet de pipeline ou pas? La question, c'est que le secteur privé est très clair en disant, nous, on n'y va pas si vous avez encore ces lois environnementales.
Oui, puis Mme Smith, d'un dernier jour, elle rayonne, là. C'est le sourire, là. Tout va bien, là.
Oui, elle était à Ottawa vendredi. Ben elle a rencontré... M. Carney, donc oui, on va voir exactement ce qui se passe avec Mme Smith en Alberta dans les prochaines semaines, les prochains mois. On est comme un peu en train de se magasiner le même scénario qui est arrivé en Angleterre. David Cameron qui disait « Moi, je suis contre un référendum, je suis contre le Brexit. » Puis quand il a vraiment eu le Brexit, on a vu ce qui est arrivé. On n'est pas là en Alberta, mais disons que c'est peut-être un scénario qui, petit à petit, devient possiblement... possible.
Oui, voilà. PLQ, là, le Parti libéral de Charles Milliard ratisse. On est en train de trouver des candidats là, pour les prochaines élections. Julie White, des manufacturiers qui s'en viendraient dans Jean Talon. Après ça, tu as Pierre Cossette dans Sherbrooke. Michel Leblanc, l'ancien de la Chambre de commerce de Montréal, qui pourrait faire le saut.
Oui, on dirait qu'au Parti libéral, c'est mission. On va mettre des candidats puis on va annoncer des candidats. On sait que M. Milliard s'est un peu mis les pieds dans les plats ces dernières semaines. Donc, disons qu'il voulait changer, comme on dit, le narratif, annoncer plusieurs grandes candidatures. La candidature de Pierre Cossette, ancien recteur de l'Université de Sherbrooke. Il ne faut pas oublier que l'Estrie, le Parti libéral du Québec, doit gagner l'Estrie s'il veut aspirer à devenir au gouvernement. Donc, c'est intéressant comme ça d'avoir cette candidature. Julie White, qui était une ancienne, je pense, conseillère politique dans le gouvernement libéral, la deuxième fois, mais elle n'avait pas bien fait, je pense, dans Jean Talon, mais est-ce que Jean Talon, c'est un comté maintenant qui pourrait redevenir libéral? Je ne sais pas. On sait ce qui se passe à Québec. Là, vous êtes mieux placé que moi en termes d'avoir le Parti conservateur qui remonte, le PQ qui remonte. On va voir à quel point les libéraux vont gagner. Puis oui, Michel Leblanc, l'ancien président de la Chambre de commerce de Montréal. Moi, tout ce que je me dis, c'est que c'est super d'avoir des candidatures comme ça, puis de pouvoir attirer, puis ça donne du momentum. Mais il faut faire attention des fois en politique. Avoir des gens avec des gros diplômes puis des gros CV, puis ça veut aussi dire des gros égos, puis c'est difficile après de les mettre tous ensemble dans un caucus, ces personnes-là.
Oui, puis tu as l'avocat René Verrette aussi, là, qui était le procureur dans l'histoire de l'ex-cardiologue Guy Turcotte, lui a annoncé aussi qu'il allait pour le PLQ dans Louis Hébert, ici à Québec. Là.
Oui, non, c'est pour ça que je te dis, c'est un bon momentum pour Charles Milliard. Il va falloir que le PQ fasse la même chose. Et qu'on voit exactement aussi, puis d'essayer de montrer cette image de gouvernement en attente. C'est drôle parce que tu es en train de voir, tu as Mme Fréchette qui va aller à Paris, puis on en a parlé. Tu as Charles Milliard qui est actuellement en train d'essayer de faire un blitz avec des grosses candidatures. On va voir ce que le PQ va faire pour essayer aussi d'attirer de l'attention. Parce que actuellement, on se le dit, là, Pierre-Éric, la campagne, elle a déjà presque commencé.
Ah, ben oui.
Ah ouais. Ta prévision sur le prochain sondage, est-ce que Mme Fréchette de la CAQ va remonter? Moi, je pense que oui, mais
oui,
ça sera pas suffisant, là.
Ben, la question, c'est de combien, puis est-ce que c'est comme le début de quelque chose? Moi, je pense que oui, elle va remonter. Il faudrait voir exactement dans les régions, ensuite de combien, puis ensuite, si la tendance, par exemple, est-ce qu'elle va vraiment chercher des votes? Moi, ce que je me demande, c'est, OK, c'est bien qu'elle monte, puis elle est en train de faire un bon travail pour monter, mais à qui elle va prendre des votes? Est-ce qu'elle va continuer à prendre des votes à Charles Millard? Est-ce qu'elle va reprendre des votes qui ont été parqués au Parti québécois de Paul Saint-Pierre-Mamondon? C'est ça la question.
Rodolphe, toujours un plaisir. Tu es salué la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, les amis.
Salut, salut. Voilà, Rodolphe Osni. Toujours intéressant avec Rodolphe. Rodolphe a été staff politique longtemps au Parti conservateur à Ottawa. Connais les games de drapeau, là, quand tu débarques en France?
Oui.
La diplomatie, le protocole,
le cadre,
la réglementation, tu sais, il y a toutes de games, là, sortes de games là-dedans. Ben là, Mme Fréchette va chercher de l'amour en France. Je suis pas sûr que Macron, je voudrais pas me coller sur Macron, là. Macron, en France, c'est le mal-aimé de la gang.
Oui.
Là. Il est pas très aimé, là. Là, tu t'en vas te coller à ça. Je sais pas. Regarde, hein? On va nous vendre des belles images de l'Élysée.
La Tour Eiffel.
Ah,
Paris.
Non, écoute, c'est magnifique.
Hein?
Le Nini, là.
Oui, voilà.
Non d'indifférence, non d'ingérence. Ça encore, pas sûr. Parce que la France, bon, oui, il y aurait un Québec indépendant. Il reconnaîtrait peut-être le Québec, mais pour l'instant...
Ah, mais ça, c'est hypothétique, là.
Ouais, c'est hypothétique, mais oui, c'est très hypothétique. Voilà. Bon, on ouvre les lignes après la pause.
88-670-9098. Moi, je dénonce ta route. C'est le palmarès des pires routes au Québec qui est sorti aujourd'hui.
Oui, puis beaucoup en Gatineau, mais il y en a dans la région de Québec. À un moment donné, il y avait Sainte-Thérèse-de-Lisieux.
Ah, oui.
Sainte-Croix-de-la-Binière.
Sainte-Croix. Moi, je dénonce la route chez nous, là. La rue Beaulieu. Quand tu pars de l'autoroute jusqu'à presque la rue chez nous, t'as la route que c'est magané.
C'est magané.
Magané, l'enfer.
Fait qu'on se défoule, c'est nid de poule sur les routes toutes défaites.
C'est parce qu'ils vont continuer, elles vont continuer de se défaire, c'est ça le problème.
Et t'oublie pas non plus le slogan, là, nos impôts font du chemin, ben c'est ça. Ben
ouais, les trous font nos routes aussi.
Exact.
88-670-9098. C'est où, selon vous, où vous avez circulé que c'était la pire route?
Voilà, on revient après la pause.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid, Radio-X.